Printemps du livre Grenoble 2025, les rencontres littéraires radiophoniques de la librairie des étudiants.
Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour ouvrir ensemble ce cinquième entretien de la librairie des étudiants au Printemps du livre de Grenoble. Publié en janvier 2025 aux éditions de l'Iconoclaste, nous nous parlons d'un lieu où tout est fragile et le titre du nouveau roman de Judith Pérignon. Au moment où nous lisons ce livre, Rachid a 88 ans. Il trouve refuge au centre d'hébergement d'urgence à Paris, rue Popincourt. Il a fui les guerres, les bombardements de son enfance, mais tout cela, nous allons l'apprendre en le côtoyant et en tentant de percer les mystères de son langage au fil des rencontres. Judith Pérignon, qu'est-ce qui vous a le plus intrigué chez Rachid le premier jour où vous l'avez rencontré ?
C'est un homme qui n'écrit pas, donc c'est un atelier d'écriture, donc il n'écrit jamais, il ne prend pas un stylo, il ne prend pas une feuille, mais il se met à parler. Et dans une langue très belle. Et comme ça, il raconte une histoire. Alors, il ne vous donne pas de date, il vous fait un décor. Et tout de suite, ses premiers, c'était saisissant. Je pense que c'était la première scène, c'était un grand destroyer de l'armée américaine dans un port d'Algérie. Lui, tout ça, voyait ça à hauteur d'enfant. Et à chaque fois qu'il racontait une histoire, c'était comme un... Moi, je voyais des images. Et je devinais le contexte, mais c'était jamais explicite, en fait. Toujours très poétique et au fond, très réaliste et très dur.
Qu'est-ce qui était le déclic chez vous de vous dire bah, cette petite histoire, cette grande histoire qu'il n'a pas forcément envie de raconter ou d'écrire, moi je vais l'écrire.
J'ai eu envie de composer le puzzle, c'est-à-dire que tout m'arrivait par bout, enfin m'arrivait et à nous autres puisque c'est un atelier collectif, et il y avait comme ça des scènes de son enfance, donc dans la guerre, de lui à Paris dans les années 50, des bouts, et je me suis dit j'ai envie de comprendre un peu mieux. Et donc, en plus de cet atelier du mercredi au SAMU Social, je lui ai proposé qu'on se voit un peu tous les deux, poser des questions. Parce qu'en atelier, on ne pose jamais vraiment beaucoup de questions, on laisse monter comme ça vient. Tandis que là, je reprenais un peu une fonction de... Je reprenais des questions. Je le forçais un peu à rentrer dans mes questions. Voilà. Et d'où ce livre.
Vous voyez à un moment donné dans ses yeux, et vous le dites, vous l'écrivez, une lointaine petite flamme qui est... La vive lueur de sa vie, trop difficile pour être un fil car scintillante de l'histoire qui se croise avec celle de sa vie. Vous parlez d'une lampe à huile ballottée par le souffle d'une vieille tempête. Cette vieille tempête, est-ce autant de mots, de paroles qu'il n'a jamais pu prononcer ?
Alors c'est la tempête justement le fait parler, mais comme ça. C'est-à-dire qu'après quand on l'écoute et qu'on ne le connaît pas, on ne comprend pas tout. Mais c'est le temps passé avec lui, c'est la confiance... Le fait de revenir à un centre d'hébergement du SAMU social, vous imaginez bien que c'est des gens qui ont rompu tous les liens, familiaux, amicaux, amoureux. Il n'y a plus personne. Donc nous, en faisant un atelier, on retisse des liens, on crée une confiance. Et donc plus on revient, plus on pose comme ça doucement des questions, plus il fait confiance et plus il est explicite. Et, parce qu'au fond, il n'a qu'une envie, c'est de se raconter, et il n'a qu'une envie... l'idée, il le dit à un moment, c'est si j'ai vécu 20 ans dehors, c'est parce que personne n'a voulu écouter mon histoire. Et je lui ai proposé d'être un peu celle-là, d'écouter son histoire.
Donc il fallait quand même gagner cette confiance, comme vous dites, pour qu'il puisse enfin se livrer.
Oui, oui, ça c'est important.
Sans quoi, peut-être que ces ateliers d'écriture n'auraient pas été les mêmes, en tout cas avec lui. Parce que je suppose qu'il y avait eu aussi d'autres personnes autour de lui qui racontaient aussi leur histoire.
Exactement, c'est des gens, c'est un centre d'hébergement d'urgence où il y a 50 personnes, vient qui veut, qui peut, et on a des bribes de beaucoup de gens, beaucoup de gens, beaucoup de gens.
Il y a un passage qui m'a beaucoup marqué dans votre livre, ouais. Parmi tant d'autres, c'est vrai, parce que votre écriture est quand même d'un souffle. Vous parlez des écritures de poésie, de raconter la poésie à travers les personnages qui sont là devant vous dans ce centre d'hébergement, mais vous avez aussi une écriture qui est d'un souffle, j'ai trouvé. Un roman qui est bref, et qui raconte énormément de choses. Là, c'est mon avis de lecteur qui transparaît à travers mes questions. Donc, il y a un passage très marquant. C'est lorsque vous reprenez une partie du discours de Jules Ferry à la tribune du Sénat, un discours prononcé le 6 mars 1891. On voit alors que l'apport de la France de l'époque serait plus grand par rapport à la société des jeunes Algériens dans laquelle ils vivent, et même dans laquelle ils l'entendent. On marque aussi une immense fracture, et on fait un retour en arrière, en fait. On se rend compte que Rachid a subi de loin, en tant qu'enfant, la Seconde Guerre mondiale, mais aussi les traumatismes de la guerre d'Algérie.
Et de la colonisation, c'est-à-dire que Rachid, c'est à la fois un homme qui vous raconte son parcours, mais c'est un objet de l'histoire. Et c'est un petit arabe, qui naît à Naba, qu'il appelle à Naba, mais que les, qui s'appelle Beaune à l'époque, puisque c'est une colonie française. Et dans ce discours, et donc ces enfants-là ne sont pas scolarisés. Et justement, on parlait de l'école, il dit, moi j'allais à l'école arabe avec mon frère. Et je lui dis, c'est quoi l'école arabe? Bah, c'était des petits instituteurs qui improvisaient dans des petits locaux et qui prenaient ces enfants que la République française ne prenait pas en charge. Mais, et donc j'ai fait des recherches et je suis tombée sur un discours effectivement de Jules Ferry. Alors c'est cette Troisième République qui se veut civilisatrice et qui est en fait très 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 raciste. Et là, lire crûment qu'en fait il explique que l'intelligence s'arrête chez le jeune enfant arabe à 14 ans. Donc il faut juste lui donner des rudiments de français parce qu'on va avoir besoin qu'il parle français. Et après, surtout pas d'histoire, surtout pas de géographie, surtout rien, puisque cet enfant est voué à être malheureux, est voué à être laborieux, juste du français. Donc ça veut dire que la République française a intégré que ses enfants sont des sous-hommes. C'est dit, dans une parole en plus très républicaine, on est quand même, la Troisième République vient de revenir, d'abolir l'Empire, donc il y a quand même un souffle en France à ce moment-là. Et pourtant, on sent dans ces mots le racisme viscéral de cette République, et qui est intéressant à écouter, puisqu'on est encore dans la République, on est dans la 5e, mais qui est héritière de la 3e. Jules Ferry, c'est une référence dans nos écoles. Et on voit comment les jeunes enfants de l'immigration souffrent encore dans nos écoles. Et voilà, Rachid, c'est à la fois l'histoire d'un homme que je crois très libre, mais qui est un objet et un produit de l'histoire.
Oui, parce qu'on voit aussi après que finalement, le fait de ne pas aller les mettre dans ces écoles, de ce vrai soutien scolaire républicain, c'est aussi pour leur donner du travail, mais qui est un travail de labeur, que ce soit dans les usines, un travail finalement manuel, mais qui n'est pas très valorisant, si on peut le dire comme ça.
Surtout aucun intellect. Mais c'est dit, hein, l'intelligence s'arrête chez eux à 14 ans. Ça veut dire que c'est presque un discours, oui, c'est un discours raciste au sens propre du terme.
Après vous avoir lu, j'ai aussi eu le sentiment d'une grande solitude, finalement, en tout cas dans le témoignage que vous faites de Rachid, dans ce voyage, cet exil forcé, contraint, que ce soit de son propre pays, après quand il arrive aussi en France, puis après cet exil secondaire, quand il remonte à Paris, et il le dit lui-même aussi, il passe son temps à voyager parce que personne ne veut écouter son histoire. Donc une histoire qui est marquée par la solitude, qui tentait peut-être de se briser dans ses ateliers d'écriture. Quelle place occupe l'écriture poétique pour dire l'impossible et peut-être aussi des cicatrices?
Ben justement, la poésie, elle permet... Nous, quand on a commencé le premier atelier d'écriture, on n'est pas arrivé en leur disant « Vous qui avez tant souffert, vous allez nous raconter votre histoire. » Parce que là, c'était sûr qu'ils allaient complètement se rétracter. C'est des gens fiers. C'est des gens... abîmé psychologiquement, en rupture effectivement affective forte. Et donc il faut, on a commencé par des jeux d'écriture, par tous ces jeux qu'ont inventé les surréalistes, les cadavres exquis et d'autres, pour installer une relation, pour que les mots deviennent un jeu et pas ajouter de la souffrance. Et puis après, ben, vous lancez un mot et puis il y a quelqu'un qui vous raconte un bout de son histoire sans que vous l'ayez forcément demandé, parce qu'au fond ils sont toujours attrapés par la réalité. Cet atelier il a 5 ans et je vois des fois on essaye des bouts de fiction mais on n'y arrive pas parce que la réalité elle est trop forte dans leur vie. Ils reviennent sur leurs souvenirs, sur leurs blessures, mais on n'a pas exigé qu'ils les mettent sur la table tout de suite. Et donc leur histoire aux uns et aux autres se tisse comme ça au fil des ateliers. Et y a effectivement une grande solitude de tous, et même les liens entre eux ne sont pas toujours évidents. C'est des gens seuls, ouais. C'est des gens seuls.
Et pour cela, il faudrait peut-être aussi les écouter, finalement. Parce que ce roman, c'est aussi de dire, on écoute les gens avant même de les juger.
Complètement, complètement. Je le dis à un moment dans le livre, si les gens qui passent devant cet immeuble de la rue Popincourt, dans le 11e à Paris, savaient la qualité des choses qui s'écrivent et se disent, c'est sidérant. Au départ, on était deux auteurs, Yann Appéry et moi, donc des gens qui aimons nous battre avec les pages blanches. Et des fois, on est bluffé par ce qui sort de leur bouche, mais en termes de qualité poétique, justement. Justement, parce que je pense que leur vie, elle est tellement tranchante que ça leur donne des fulgurances. Alors, Rachid, pour ça, c'est le champion. C'est-à-dire qu'il a une langue, il y en a quelques extraits dans le livre, qui parfois est d'une pure beauté, quoi. C'est de très, très haut niveau. si on lui pose une question sur qu'est-ce que tu faisais telle année, voilà. Bon, bah là, c'est un récit qui vient plus lent. Mais si on arrive par la poésie, alors là, c'est énorme. Mais c'est justement parce que cette langue le protège aussi. Il ne se plaint jamais, Rachid. Il ne pense pas qu'il est un homme maltraité. Il se sait sensible, il se sait intelligent, ce que lui aurait refusé Jules Ferry. Et c'est lui qui raconte son histoire. Il va travailler effectivement sur les chantiers à Paris, mais quand il vous raconte ses années chez Alstom à Belfort, il vous raconte le château de Belfort, un château qu'ils ont essayé d'acheter collectivement, des ouvriers, des aventuriers. Et tout est comme ça, c'est qu'à la fois on ne sait plus ce qu'est le souvenir, le rêve. Il parle beaucoup d'aventures, en fait.
Ce souvenir, toutes ces émotions qu'il peut transmettre, est-ce que c'est ça finalement, cette fragilité dont parle le titre ? Nous parlons d'un lieu où tout est fragile, est-ce que c'est cette parole-là qui est fragile, cette parole poétique ?
Je pense que non, alors la vie est fragile dans cet endroit. La parole poétique est forte, justement. Elle est la réponse à la fragilité de leur vie. Mais justement, cette parole poétique est forte.
Vous ouvrez votre roman sur un épigraphe de James Baldwin. Nous sommes notre histoire. Si nous prétendons le contraire, nous sommes littéralement des criminels. À l'heure où notre monde devient de plus en plus flou, est-ce que vous vouliez rappeler que nous devrions plus faire attention à ce que nous faisons et à ce que nous sommes ?
Ah oui, c'est vrai pour tout le monde. Hein. Qu'on soit un homme en marge comme Rachid ou vous, moi, enfin, on est vraiment le résultat de quelque chose qui a commencé bien, bien avant nous. À la fois dans une famille et un arbre généalogique, dans une société, un pays. On se croit des êtres libres et déterminés, mais on est tellement, tellement conditionnés. Et moi, c'est pour ça que c'est vraiment une des raisons de l'écriture, c'est comprendre tout ça.
Donc ce serait une main tendue vers les autres.
Ah oui, oui. Et qui m'aide moi aussi pour moi-même. Hein. Mais cette main tendue, cette écoute pour les autres me donne des clés à moi-même.
Alors qu'est-ce que vous avez compris précisément après ce texte ?
Qu'est-ce que j'ai compris ?
Si vous auriez peut-être une morale à en tirer ou quelque chose ?
La morale, si je devais dire, c'est que les voix les plus importantes, les plus fortes, les plus justes, ne sont pas les plus fortes, ne sont pas celles qu'on entend. Rachid, il est dans une chambre du SAMU social, personne ne l'écoute, personne ne le voit dans la rue. Et je vous promets que passer du temps avec lui, c'est apprendre beaucoup.
Votre roman est illustré par Hippolyte, et il reprend ce que vous dites, il le métaphorise, il le sublime. Comment s'est passée votre collaboration avec ?
En fait, moi j'ai écrit ce texte, et je sentais, justement parce que des fois, la parole de Rachid, on ne sait plus si c'est du souvenir ou du rêve, et ce qu'il transforme, je pensais au dessin. Pour moi, le dessin, c'est ça. Ça pouvait être sur cette lisière, cette zone floue. Et donc j'ai fini le texte et j'ai dit à l'éditrice, je pense qu'il faut un peu de dessin. Et donc c'est Constance Beccaria de l'Iconoclaste qui a pensé à Hippolyte, que je ne connaissais pas, et qui lui a reçu le texte, l'a aimé, et en peu de temps a dit, je vois du jaune. Et je lui ai dit, vas-y, fais ce que tu vois en fait. Et je ne sais pas, 6 semaines plus tard, il a envoyé quelques planches et c'était magnifique. Donc on ne se connaissait pas, c'est par le texte, ce qu'il a entendu de ma voix et de l'histoire dans le texte, et il y a répondu par la couleur et son trait qui est magique et magnifique.
Qui sublime, ouais, votre texte et qui l'accompagne, qui le complète. Quel est votre livre de chevet actuellement ?
Quel est mon livre de chevet actuellement ? Parce que je suis très mauvaise avec les titres, je viens de finir le livre « Mon vrai nom est Elisabeth ».
Oui.
Et j'oublie le nom de Adèle, Yvon, quelque chose comme ça, qui est justement un livre sur une quête familiale et comprendre ce qui est arrivé à une arrière-grand-mère pour comprendre qui on est. Je pense que c'est le processus de... Le nerf de l'écriture est là, quoi. Ouais.
Nous parlons d'un lieu où tout est fragile. Le roman de Judith Pérignon est à retrouver en librairie indépendante. Merci Judith Pérignon.
Merci à vous.
Merci d'être venue à ce micro pour échanger ensemble autour de votre livre. Amis auditeurs et auditrices, je vous donne bien sûr rendez-vous vendredi pour découvrir ou redécouvrir l'entretien de la librairie des étudiants au printemps du livre de Grenoble, réalisé en direct avec Grégoire Bouillet. La capsule auditive de l'entretien du jour est à retrouver en balado-diffusion sur le site internet de Radio Campus Grenoble 90.8 à la rubrique de la librairie des étudiants. Je vous souhaite de passer une belle journée et surtout, le plus important, d'avoir de belles lectures.